pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.
You. Bonjour tout le monde.
Alors nous on est de retour, voilà, vivant, on va boire un coup.
Non.
On va boire un coup, bon d'accord.
Bonjour Jean-Marie, bonjour la technique, bonjour les auditrices et les auditeurs.
Bonjour tout le monde.
Voilà, alors Jean-Marie, le sujet de cette émission concerne un pays qui est à l'origine de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Hein.
Ah, oui.
Et devinez laquelle, hein, Jean-Marie, d'après toi.
Tu dis, on est dans la situation, on est dans la...
Oui, dans la
bon,
mouise.
D'accord.
Hein,
là, c'est ça. Oui. Alors oui, on va vous parler aujourd'hui de la piraterie en mer de Chine.
Eh oui, c'est la Chine.
Hein, voilà, d'accord. Voilà, la piraterie en mer de Chine. Alors, tout pays, toute civilisation a toujours leurs bons et leurs mauvais côtés. Aucun n'est parfait. À part toi et moi, bon.
Oui.
Il en va de même pour ce dont on va vous parler aujourd'hui, la piraterie. Est-ce que ça a du bon? On va le voir. On va aller maintenant aux antipodes. Et alors, évidemment, on va aller en Chine. En mer de Chine, alors la piraterie est attestée historiquement, hein, au moins depuis la dynastie des Ming.
Mm-hmm.
Je l'ai bien dit, ça?
Oui.
Ming. Ah oui, Ming. Une dynastie qui a régné entre 1368 et 1644. On compte presque 3 siècles, quand même. Mais selon toute vraisemblance, elle existait bien avant, même si dans des conditions qui étaient quand même plus modestes et surtout qui étaient plus localisées. Parce que tu sais que la Chine, avant d'être un empire, c'était plusieurs royaumes.
Ouais.
D'ailleurs, dans l'histoire de la Chine, il y a eu ce qu'on appelait la période des royaumes combattants.
Aha.
Qui se faisaient la guerre entre eux. C'est connu dans l'histoire sous ce nom. Alors précisons que nous sommes là en mer de Chine orientale, donc celle qui est le plus dans l'ouest, dans l'Orient, hein. Dans l'Est plutôt, je veux dire. Dans l'Est, excuse-moi, je me suis trompété. Alors, c'est de la confrontation entre la pauvreté des populations maritimes, ces pêcheurs, ces gens qui étaient en bord de mer, et la richesse des trafics maritimes qui fréquentaient ces côtes, qu'émerge évidemment la piraterie, c'est-à-dire la réaction...
De s'approprier ce qui les tente et qui en plus passe à leur portée.
Ah, et oui.
Et voilà.
Quand ça passe à leur portée, ça tente quand même.
Et voilà, c'est ça. C'est... Oui, c'est tentant.
Comme disent les campeurs. Bon, enfin.
Voilà.
Alors vas-y.
Alors les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, ont toujours combattu toute concurrence à leur autorité, hein,
ouais,
bien sûr. Hein.
Ça,
autant que toute entrave au commerce, tout dysfonctionnement dans les règles établies.
Oui.
Et ce n'est rien d'autre que l'éternelle rivalité entre les institutions et puis ceux qui en sont exclus.
Eh ben ça existe chez nous aussi.
Voilà, hein, les laissés pour compte qui, tôt ou tard, ils finissent par demander leur compte. Quoi, hein.
Justement parce qu'ils sont laissés pour compte.
Voilà. Alors la piraterie non seulement constitue un vol, donc une dérive néfaste à l'équilibre des échanges, du négoce...
Ouais.
Mais en plus, l'insécurité est un frein pour le commerce.
Oui, les gens hésitent à laisser leur truc.
Dans la même lignée, les pays colonisateurs qui ont par la suite pénétré dans cette région, ils n'ont rien fait, en tout cas dans les premiers temps, pour changer la donne.
Oui, ça c'est
vrai. Et d'autre part, dans ces mers, la piraterie fut autant chinoise que japonaise.
Oui, parce que les Japonais ne sont pas très loin. Hein.
Non.
D'accord. Alors... Mon chien aussi, de temps en temps, il met japonais. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est quand il n'est pas content. Alors, le règne des Ming a d'abord été marqué par un repli sur les territoires de l'intérieur. Donc, ils se sont éloignés de la côte. Et de façon plus générale, par un repli de la Chine sur elle-même, évidemment. Sur sa civilisation, sur leurs habitudes, etc. La dynastie étant passablement totalitaire, comme un peu toutes les dynasties d'un régime comme ça. Alors, elle s'est réservée le monopole du trafic maritime, soit, évidemment, comme on le comprend, une large part des richesses. C'est vrai que ces gens-là s'attribuent jamais une large part de la pauvreté. Il faut reconnaître. La mise en place de ce genre de mesures, qui forcément spolie l'activité en bien des domaines, entraîne le développement de la contrebande, évidemment, pour passer outre au pouvoir, que les pouvoirs publics qualifient de piraterie. Spolier, celui qui spolie, c'est forcément hors la loi. Tu comprends ce que je veux dire, là ?
Oui.
Spolie. Rester spolie, comme dit l'autre. Alors, un qualificatif que le pouvoir de cette époque colle aussi bien d'ailleurs le qualificatif c'est de pirate évidemment, ouais, colle aussi bien sur ceux qui entretiennent des rapports avec l'étranger, ça aussi c'était des pirates, et même sur les autres citoyens qui eux refusent de se plier aux règles étatiques, aux règles de la dynastie, de la monarchie. Dans les environs de Canton vivent les Tancas, une ethnie de pêcheurs misérables dont la plupart ne quittent jamais leur pirogue. Je parle au présent, mais en fait, je parle comme si j'étais à l'époque. Oui, leurs jonques, leurs sampans, les sampans, ouais, les jonques, les petites jonques. Hein. Or, durant la mousson, la pêche devient moins rentable, mais par contre, le trafic maritime commercial augmente à cause des vents qui portent du bon côté, parce qu'à l'époque, évidemment, on marchait qu'à la voile. Et pas la vapeur, évidemment. Ouais, et presque naturellement, les pêcheurs deviennent, évidemment, automatiquement des...
Pirates.
Voilà. Et ouais.
Alors, à partir de 1534, certains marins de la province de Fukien passent un accord avec des moines shintoïstes de l'île japonaise d'Okinawa.
D'accord.
À noter d'ailleurs au passage que la religion shintoïste et traditionnellement celle des Japonais, hein,
toujours,
comme tu le sais.
Oui, toujours. C'est,
une sorte de chamanisme, en gros, hein, pour faire court.
D'accord.
Alors, il s'agissait là d'importer des métaux précieux, et c'est ce qui va déclencher un accroissement de la contrebande, bien sûr. Alors,
hein. Me le comprendre, ça.
Surtout parmi les classes bien les plus appauvries.
Ah, bien sûr.
De fait, la confrérie pirate va s'étendre des Tancas, qui sont des marins, vers les paysans pauvres qui, eux, pourtant... sont seulement terriens. Et la confrérie ira jusqu'à s'associer à des Japonais vivant dans les conditions similaires de pauvreté.
Et tous les pauvres de la terre se retrouvent. Hein. Bon. Alors, par contre, leurs bateaux sont peu adaptés à des abordages. Ils sont plats. Ce sont plutôt des barges. Hein, ce sont plutôt des barges, ce ne sont pas des bateaux très marins. Quoi.
Non.
Et surtout conçus pour les transports limités de marchandises. Et l'abordage, par contre, est pour ces pirates la seule façon de s'emparer des navires marchands, qui eux sont des navires de haut bord, c'est-à-dire dont le bord, le pont, eh bien, est bien plus haut par rapport à la mer. Mais par contre, ces marchands, évidemment, sont peu armés. Évidemment. Et oui, tu entends là le bruit de la barge.
Eh oui.
C'est pas le même bruit qu'un autre bateau. Hein. Oui. Ça fait un bruit de vague, quoi. Bon, alors c'est vague ce bruit-là. Hein. Alors voilà, après ces quelques vaguelettes, ce temps va être le plus favorable à la piraterie dans cette partie du monde. Alors devant ce péril nouveau, une partie de l'oligarchie marchande, l'oligarchie donc c'est la classe dominante évidemment, chez nous c'est pareil d'ailleurs, va s'adapter. Elle va tout simplement employer ses wakos, ces pirates, comme ça qu'on dit là-bas, et ensuite elle va tout bonnement remettre sur le marché, et bien tout simplement remettre les biens qui ont été ainsi dérobés.
Voilà.
Le commerce, ça tourne rond. En l'absence de réelle opposition, ces wakos prennent même possession de plusieurs îles face aux côtes chinoises. Et sur l'île de Kyushu, située au sud de l'archipel Nippon, l'archipel Nippon, c'est l'archipel japonais, bien sûr. Hein,
oui, oui.
Voilà. Une île de 100 km sur 200 km, donc une île quand même assez jolie, un peu comme la Corse, tu vois, actuelle. Ils installent une vraie base stratégique. Ils sont maintenant, à force, ils se sont fortement armés, et ils vont même carrément s'attaquer à la flotte impériale, à tel point qu'ils étaient vraiment bien organisés, et puis qu'ils avaient les dents qui s'allongeaient. Peu à peu, ils s'aventurent à l'intérieur du territoire chinois jusqu'à Nankin. Nankin. Alors, en chinois, Pékin signifie capitale du nord.
D'accord.
Et Nankin signifie capitale du sud.
D'accord.
As-tu compris ce que je t'explique là ?
Parfaitement.
D'accord. Alors, amène-moi le riz.
Alors,
l'empereur, après le saké, d'accord.
Voilà. L'empereur se voit dans l'obligation de prendre des mesures importantes, c'est-à-dire augmenter les effectifs de sa flotte et puis augmenter leur armement.
Oui, forcément.
Voilà, il doit aussi montrer plus de férocité à l'égard des pirates qui sont pris.
D'accord.
Alors, après un premier recul de la piraterie, eh bien, elle se déplace bien plus loin dans le sud, vers les Philippines.
Ah oui, ça, c'est beaucoup plus au sud.
Le grand chef de la piraterie, c'est Limahong. Il a même maintenant de nos jours une statue et un mausolée à Alaminos, aux Philippines. Ah. Hein, comme quoi la postérité n'est pas toujours regardante. Hein.
Oui, écoutez, c'est quelqu'un qui a laissé sa trace dans l'histoire. Bon, voilà. Maintenant, peut-être ils vont déboulonner sa statue comme ils font un peu partout. Alors vient ensuite le temps des colonialistes. Ah. Le temps de la colonisation, bien sûr. Principalement, dans une première période, ce sont les Hollandais et les Portugais. Les Portugais, les premiers d'ailleurs, il faut bien le dire. Les Hollandais sont venus après, qui vont profiter de l'affaiblissement des empereurs Ming, notamment dans le domaine du commerce, évidemment, pour s'acoquiner avec, évidemment, avec les contrebandiers, évidemment, avec les pirates, afin d'étendre leur influence, c'est-à-dire leurs affaires. Évidemment, ils se sont associés aux ennemis des empereurs, évidemment, c'est logique pour les affaiblir, hein, voilà. Qui visent le profit, évidemment. Leur influence, leurs affaires, c'est le profit à ces gens-là, essentiellement. En 1644, disparaît le dernier empereur Ming. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle a duré de 1338 à 1364. Disparaît le dernier empereur Ming, et ce sont donc les Mandchous qui prennent la direction du territoire. La dynastie des Mandchous, qui venait de Mandchourie. Alors la Mandchourie, c'est quand même au nord de la Chine. Hein. Voilà. Okay. Au bout de quelques années, ils prennent un réel contrôle des zones de piraterie et ils organisent une expédition de nettoyage sur Formose. Formose, c'est maintenant Taïwan. Taïwan. Mm-hmm. Tu comprends ?
Oui.
Et les pirates s'étaient installés depuis 1541. Je vous le donne, Émile. La piraterie, alors, va stagner, mais sans jamais disparaître. Évidemment, elle va stagner. Pourquoi ? Parce qu'on lui opposait des forces plus puissantes, elle était obligée de se planquer, de... Voilà. Et alors, c'est à la fin du XVIIIe siècle que débute un conflit entre les Vietnamiens et les Chinois. Le Vietnam, ancienne Indochine, étant au sud de la Chine, comme tu le sais. Les Vietnamiens font appel aux pirates, et notamment aux frères Thai Song, qui, eux, sont des Vietnamiens, des pirates vietnamiens. Ils vont en faire des alliés dès 1780, ce qui va donner une nouvelle impulsion à ces confréries qui vont s'organiser en confédération en l'espace de quelques années, assez rapidement. Mmh. Dès qu'il y a du profit, évidemment. Ils installent leur base sur la presqu'île de Leizhou, située, elle, au sud de la Chine, évidemment, pas loin du Vietnam. Et en 1797, leur grand chef est Cheng I, qui, alors déjà, tu vois, ils se me donnaient des numéros comme les monarques, comme les rois, qui vit, évidemment, lui, Cheng I, qui vit pratiquement comme un souverain, puisqu'il est le grand amiral des escadres pirates, ce Cheng I.
Eh oui. Alors, il s'agit d'une confédération qui est organisée en 6 escadres, fortes chacune de 10 à 40 jonques.
Oui.
C'est un ensemble très précisément réglé de façon militaire, où vraiment tout est prévu dans le moindre détail. Alors, dans une vaste zone allant de Canton aux côtes du Vietnam, eh bien, ces escadres, elles ratissent toute la mer et elles pillent tous les navires de passage, y compris même les navires européens.
Ah, bon, pas génial.
Eh oui, leur puissance devient telle que les armateurs et les autres commerçants en viennent à payer une cotisation annuelle à la Confédération des Pirates.
Ah ben.
Pour être tranquille, quoi. Hein. C'est un racket solidement institué, un genre de taxe. Voilà. C'est ça, quoi, une sorte de racket, quoi, en fait.
Oui, c'est ni plus ni moins que du racket.
Voilà.
Hein. Oh, il y en a qui nous raquettent légalement, hein, quand même. Hein. J'ai des noms. Hein.
Bon, enfin, oui.
Cheng I décède.
Un autre sujet.
Oui, si on veut, c'est un autre sujet. Cheng I décède en 1807. Son épouse, Cheng Shi, prend sa succession avec l'assistance de son fils adoptif, en appliquant un règlement tout aussi dur, aussi bien à l'égard des prisonniers que des pirates eux-mêmes. Hein, c'était du raid, hein. Ah, ben, si on veut faire fonctionner un truc, il faut de la discipline.
Un minimum.
Voilà. Et comme on peut le comprendre, le pouvoir chinois mène plusieurs campagnes pour mettre fin, évidemment, aux menées de ces pirates qui sont maintenant devenus un véritable État adversaire. Il faut les considérer comme un ennemi de première grandeur. Mais les efforts de la dynastie chinoise ne sont pas à la hauteur du problème. Ils restent sans réel, tous ces efforts restent sans réel succès. Et bien évidemment, les Européens qui sont maintenant évidemment très présents dans ces contrées, puisque le système évidemment colonialiste commence très fort à la fin du au début du 19e siècle. À cette époque, ils réagissent eux aussi contre ce banditisme. Et lors d'une de ces campagnes de lutte contre la piraterie, les Chinois font même appel à un navire de guerre américain à l'époque. Mais là, non plus, sans grand lendemain. Il faut dire qu'à l'époque, les Américains n'avaient pas la puissance qu'ils ont eue par la suite, hein, évidemment. Ce n'était pas encore une grande puissance. Et la Confédération poursuit ses actions de racket, la Confédération pirate, évidemment, et puis toujours autant le trafic commercial, sans faire d'a priori pour les uns ou pour les autres. Hein. Mmh. Un bateau passe, il a des marchandises, on peut le piller, on le pille. Voilà, on sait, rien à foutre de savoir s'il appartient au Vatican ou à qui que ce soit. L'empereur est contraint de passer un accord avec ce véritable empire de la piraterie. Il propose une politique d'indulgence. Ça, c'est toujours quand on est affaibli, il faut toujours se montrer indulgent. Alors c'est un peu toujours une traîtrise, mais bon, voilà, c'est la politique, elle marche comme ça. Ce qui va de suite amener la reddition de deux des plus grandes escadres en 1810. Et dès l'année suivante, le reste de la flotte est trop affaiblie. Et évidemment, elle se rendra elle aussi, puisqu'elle était quand même tombée sous le niveau de puissance. Comme souvent, pardon, j'ai le couplet moi, toi t'es le Covid, mais moi j'ai le couplet. Alors comme souvent, lorsque les forces en présence se configurent dans un nouveau paradigme, les choses évidemment vont de suite, puisqu'on est dans un nouveau paradigme, dans un nouveau contexte, et bien les choses vont prendre un tout autre aspect, bien entendu.
Et oui. Alors la nouvelle donne, eh bien, c'est précisément, et en même temps que cette quasi-disparition de la piraterie, eh bien, la nouvelle donne, c'est la présence de plus en plus forte des Européens dans cette partie du monde.
D'accord.
Cette présence modifie donc considérablement le contexte sociopolitique, donc aussi commercial, et par conséquent, tous les rapports de force. Alors ce sont les Anglais qui, par leur puissance maritime, vont s'imposer. Ils vont intensifier la lutte contre la piraterie qui nuit gravement à leur commerce, hein, bien sûr, et donc à la sécurité de la zone.
Et Dieu sait qu'il ne faut pas toucher au commerce ni à l'empire des Anglais.
Hein. Les Anglais, ils ont découvert l'opium, surtout alors présent aux Indes. Hein.
Oui.
Et bien sûr que les Chinois connaissaient cette drogue, mais elle ne leur servait que comme analgésique.
D'accord.
Et avec ce sens inné du pragmatisme qui les caractérise, ces chers Anglais...
C'est pas fou.
Ils ont imaginé que cette drogue peut aussi permettre d'affaiblir les Chinois.
Aussi permettre.
De cette façon, de mieux contrôler ces populations.
C'est pas bête.
Et puis, en même temps, la maîtrise de ce trafic. Donc, étant donné l'importance numérique de la population chinoise, constitue une source de profit considérable.
Ouais.
On va alors rentrer dans ce qu'on va connaître sous le nom de guerre de l'opium.
Ah, nous vous ferons une émission tout prochainement sur cette fameuse guerre qui va aussi vous faire comprendre, vous faire connaître en tout cas, vous comprendre pas mal de choses, pas mal de choses. Allez, glou glou glou. Alors vous êtes sur Radio LBJS avec
Jean-Marie
et Arnaud
sur 95.4
et évidemment toujours 104.2. Nous sommes très conservateurs, très conformistes, on reste toujours sur les mêmes antennes.
Voilà, dans l'émission.
Et dans l'émission, évidemment, dessine-moi.
Un bateau,
et là c'est plutôt décidément une jonque, mais enfin c'est un bateau quand même.
Voilà.
Et on est en train de vous parler ici de la piraterie chinoise. Alors si la Confédération pirate semble être en quelque sorte fondue, en quelque sorte, dans l'Empire chinois, suite à l'amnistie concédée par l'empereur dont on vient de parler, il reste quand même encore des pirates. Il y a toujours un qui travaille pour leur compte et pas pour le compte de la collectivité. Et ceux-ci, qui sont loin d'être stupides, ont très vite compris le but poursuivi par les Anglais. Et cette source de profit, c'est-à-dire le trafic de l'opium, ils en veulent leur part.
Et pardi.
Pourquoi pas ? Lorsqu'ils se sont installés à Hong Kong, les Anglais ont pris connaissance de l'impunité qui était concédé aux pirates, qui d'ailleurs en profitent pour, en sous-main d'ailleurs, même s'ils font soi-disant partie maintenant de l'Empire, continuer à piller, car de fait le pouvoir de l'empereur n'est plus, évidemment, à ce moment-là, que très théorique. Seulement d'apparence et en quelque sorte, surtout institutionnel, c'est-à-dire signature sur le papier.
Voilà.
Dans ces conditions, les Britanniques vont de suite déclarer la guerre à la piraterie. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est celui-là ? Ils nous empêchent de faire le commerce. Ils nous empêchent de faire le commerce, ça ne va pas marcher. Alors, les punitions sont sévères et on peut même dire féroces. Alors, les Anglais n'ont rien de bisounours.
Et non.
Et ce n'était pas inventé encore, mais ça... ils entretiennent un vaste réseau d'espions qui leur signalent les jonques qui se livrent à la piraterie. Alors, les Anglais vont même aller jusqu'à imposer de désarmer toutes les jonques.
Ouais.
Comme ça, hop, à dégager, il n'y a plus personne. En même temps, les Français qui, eux, sont maintenant présents en Indochine, le Vietnam actuel, comme on l'a dit tout à l'heure,
ouais.
À l'époque, ça s'appelait Indochine, parce que c'était entre les Indes et la Chine, donc Indochine, voilà.
D'accord.
Géographiquement, c'est ça, quoi. Eh bien, ils sécurisent les côtes plus au sud, c'est-à-dire celle du Vietnam actuel, qui commence pratiquement au nord de la Malaisie jusqu'au sud de l'Empire chinois. Alors, à cette époque, on commence à utiliser, donc disons-le, on est dans le premier tiers du 19e siècle, à utiliser les navires à vapeur et les coques en acier. Hein, parce que sur un navire en bois, avoir des foyers où on alimente les trucs...
Oui, c'était pas très conseillé.
Faut pas s'amuser à ça. Donc les coques en acier. Les jonques chinoises sont très vulnérables par rapport à des navires en acier et motorisés.
En plus.
Il suffit de foncer sur la jonque et boum, elle va au fond. Donc c'est les jonques, on n'en a jamais vu en ferraille. Elles sont toutes en bois. Par exemple, en août 1855, par exemple, eh bien un navire de la Royal Navy, et donc c'est-à-dire des Anglais, et un autre de l'US Navy, c'est-à-dire les Américains, qui patrouillent près de l'île de Tai Ho, dans la région de Hong Kong, parviennent à libérer 7 navires marchands, 7 quand même, qui avaient été capturés par une escadre japonaise, une escadre pirate, je ne suis pas japonais, moi, je ne sais pas pourquoi, et parce qu'ils n'arrêtent pas de me japper, de 36 jonques, et ils n'étaient que deux, dont 17 ont été coulés.
Quand même.
Bon, les gens. Alors, la puissance de feu est-elle aussi sans commune mesure, évidemment.
Ben oui.
Ils avaient des canons, etc. Et 150 pirates sont tués pour seulement 9 morts du côté des Anglo-Américains. Donc, quand les 9 morts, c'était parce qu'ils s'étaient tués tout seuls.
Alors, malgré une telle disproportion des forces, la piraterie continue quand même à se maintenir.
Ils étaient acharnés.
Alors, il faut savoir que ces côtes sont très découpées.
Oui.
Elles offrent des milliers d'abris, souvent invisibles du large.
Mais...
Et les pirates, eh bien, ils les connaissent à la perfection, d'ailleurs, comme les milliers d'îles qui existent dans le secteur.
C'est très favorable.
Et donc,
ça.
Cette situation va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Carrément.
C'est la ville de Macao qui, elle, fut créée par les Portugais, qui va sans doute rester le plus longtemps le vrai nid de la piraterie chinoise.
Oui.
Et dans ce secteur, d'ailleurs, c'est une femme, Lai Choy San, qui va rester le grand symbole des pirates macanais. Essentiellement dans la période de 1918 à 1940. Elle a surtout dû sa célébrité au récit qu'en a fait un journaliste dans son ouvrage édité en 1931 et qui s'intitule « J'ai navigué avec les pirates chinois ». Voilà. Alors pourtant, c'est sûrement une autre femme, Qin Shi, qui domina la plus grande flotte pirate de tous les temps. On ne sait même pas son vrai nom, car Qin Shi signifie la veuve de Qing. Qing, c'était le nom de son mari, qui était le chef d'une escadre de brigands. Et dès son jeune âge, elle est livrée à la prostitution, cette dame. Qing la rencontre et en fait sa femme en 1801. Puis Qing va disparaître lors d'un naufrage dû à un typhon. Et son épouse prend le commandement, car lui, il était violent, elle est surtout calme et calculatrice.
Ah oui, ces dames, elles sont souvent comme ça. Calme, je ne sais pas, mais calculatrice, c'est... Non, je dis ça pour rire. Non,
Que sinon, tu vas...
Mais non, j'en pense pas une miette.
Les auditrices, là, vont pas...
Je ne pense pas une miette, je le pense tout à fait... excuse-moi. Bon, je reprends. C'est une femme intelligente.
Ah. Heureux de te l'entendre dire.
Ce qui n'est pas rare.
Absolument.
D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Elle prend comme adjoint propre adjoint de Qing, dont elle a reconnu les qualités, mais aussi une très grande qualité. Elle sait qu'il est facile à manipuler. On a dit qu'elle était intelligente.
Et voilà.
Bon, d'accord.
La preuve.
Cet ensemble, sa flotte, ce sont quand même 1800 navires et plus de 16 000 hommes. C'était pas rien.
Non.
Et son territoire, c'est la totalité de la mer de Chine, depuis l'Océanie jusque, bien sûr, au nord du Japon.
Eh ben.
Allons-y, faisons tourner le moteur. Voilà, c'est une jonque à moteur. Donc, hein. Alors, c'est bien comme ça. Met en place un code de la discipline d'une extrême rigueur et qui ne souffre aucune dérogation. Inutile d'en faire la liste, toutes les peines sont féroces, donc très dissuasives. Cette vraie réglementation va de la distribution du butin jusqu'à la façon de traiter les prisonniers ou même d'aller à terre, ou même de s'absenter.
Eh bien.
Hein, si tu t'absentes sans permission, gare à toi.
Souci.
La fessée. Oui. Bon, d'accord, t'es compris. La flotte s'appelle les drapeaux rouges.
Eh.
Un détail intéressant, car il montre bien l'état d'esprit infusé par cette femme de tête. On ne doit jamais parler de butin, mais de transfert dans l'expédition des marchandises. Il n'y a pas de butin, c'est un transfert dans l'expédition des marchandises. Ce qui montre que bien qu'elle devait avoir un peu de sang anglais en disant ça. Rien à ajouter, c'est très clair. On croirait entendre parler un énarque. Bon, non, monsieur, je dis ça pour plaisanter.
Bon, ouais, d'accord.
Non, je dis pas. Alors, le gouvernement chinois, même aidé par les Portugais, n'est pas parvenu à défaire la flotte de Qingqi. Lors de certaines confrontations, les Chinois légaux ont utilisé la technique des brûlots.
Mm-hmm.
Ça consiste à bourrer de vieilles barcasses de toutes sortes de choses très inflammables. Du bois, de la paille, des vieux chiffons, de la poire, enfin des trucs qui brûlent, des vieilles huiles, oui, tout ce que tu voudras. Et avec quelques explosifs pour, évidemment, améliorer le résultat.
Bien sûr.
Et de les lancer sur la flotte ennemie. Voilà. Mais les brûlots, ça existait chez nous aussi, hein. Il faut pas. C'est pas vivant. Vous n'avez rien inventé. Hein. Les brûlots, ça existait. D'ailleurs, on en a parlé au sujet de l'invincible armada dans une émission.
D'accord.
Pour pratiquer cette technique, il faut réunir deux choses. D'une part, ça ne fonctionne bien que la nuit, une nuit bien noire, pour pas qu'on les voit arriver,
et oui.
Parce qu'ils arrivent avant d'y mettre le feu, évidemment. Hein. Ils arrivent dans le sombre. Hein. Mmh. Et ensuite, il faut faire conduire ces brûlots par des équipages suicides, genre commando.
Ah.
Commando. Hein, voilà. Et quand ils arrivent à porter sur les bateaux ennemis, poum, on fout le feu. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, ils brûlent. Eh bien, même ça n'a pas suffi à réduire les pirates. Donc, pourtant, les jonques, elles étaient très inflammables.
Eh ben, oui.
Tu sais que du bois, des cordages, des toiles, et tout. Mais dans plusieurs cas, les pirates sont même parvenus à éteindre les flammes, allant jusqu'à réparer les bateaux suicides et à les intégrer dans leur flotte.
Ouais, ils sont forts quand même. Hein.
Mais les Chinois sont très forts. Mais tout a une fin et le combat permanent devient pesant pour tout le monde. Qingqi va finir par cesser le combat, mais là encore, elle va le faire à sa manière. Elle va passer des mois à négocier, genre valse et citation. Un pas en avant, deux en arrière.
Oui.
Elle finira par prendre sa retraite, sans même livrer ses hommes, et même en obtenant des autorités quelques faveurs.
Tiens donc.
Jugez plutôt, elle garde son imposant trésor, elle le garde, on ne peut rien lui prendre.
Tiens.
Elle obtient l'amnistie pour tous ses pirates, amnistie. Mmh. Et la cerise sur le gâteau, son adjoint Chang Po obtient même un poste d'officier dans la marine impériale.
Rien que ça.
Ça, eh quand bien. Même, c'était pas mal. Hein.
Ah, ouais.
Il faut dire que là, débrouillarde la fille.
Elle est forte, ouais.
Pour une ancienne prostituée, quand même débrouillarde. Qingqi finira ses jours à 69 ans en gérant une maison close. Dont toutes les portes étaient ouvertes, d'ailleurs. Ça, c'est bizarre. Hein. Pour une maison close. Après avoir passé tellement de temps au grand air, finir dans une maison close, quelle dérision. Bon, enfin. Mais quand même riche et même respecté, c'est quand même une belle réussite.
Ouais, effectivement, oui. Alors, Chang Po, là, ce chef pirate retraite à ses compagnons de combat, lui ne va pas faire preuve d'esprit chevaleresque. Hein. Il va utiliser ses fonctions dans la marine impériale. Pour détruire ses anciens rivaux. Comme quoi, eh bien, le pouvoir et un certain sens de l'honneur, ou plutôt du déshonneur, hein, ne sont pas forcément compatibles.
Oh bah ça, c'est toi qui le dis.
Alors on va maintenant voir en digest ce qu'en dit la revue des deux mondes entre 1846 et 1853.
Au milieu du 19e.
Voilà, la revue des deux mondes, c'était un recueil de la politique, de l'administration et des mœurs. Oui. Qui fut fondée sous le titre « Revue des deux mondes » en juillet 1829 par Prosper Mauroy et Pierre Ségur de Perron et qui fut éditée pour donner une tribune aux idées en France en relation avec les autres pays d'Europe et aussi avec le continent américain.
D'accord.
Alors, donc dans cette revue des deux mondes, eh bien, alors, à Singapour, Port Franc alors sous contrôle anglais, les marchés offrent au milieu des tissus, fruits, vaisselle, meubles et autres, un assortiment impressionnant d'armes allant de la simple lance au canon de beau calibre. Les pragmatiques britanniques ferment les yeux pour ensuite aller traquer les pirates qui, bien sûr, viennent s'équiper sur ces marchés. Donc la revue des deux mondes emploie même la belle formule « L'honneur est sauf, la civilisation est vengée
». Il passe un voyage.
Voilà. C'est une belle pirouette.
C'est le pragmatisme, ça.
Voilà, c'est ça. Ouais, alors, ouais. Il est vrai qu'on ne saurait, je cite, porter préjudice au free trade, le libre commerce.
Free trade, oui.
Voilà, c'est ça. Pas plus qu'on ne saurait priver les usines de Birmingham de leurs légitimes revenus.
Ah, oui, et voilà, tout le monde travaille, quand même.
Et dans cette revue, il paraît même... qu'on trouve aussi bien en Angleterre que dans les Indes des incrédules à l'endroit de la piraterie. Eh oui, mon pauvre, ainsi va le monde.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Oui.
Alors ensuite, la revue rappelle que la piraterie barbaresque en Méditerranée n'a cessé quand même qu'à partir de 1830,
oui.
Lorsque la France a imposé son pouvoir à Alger et sur toute la côte dite barbaresque.
À l'époque.
Puisque cette partie de l'Afrique du Nord était en quelque sorte une colonie turque.
Bien sûr, oui.
Bon, bien sûr que le contexte est ici passablement différent, à plusieurs égards.
Oui. Voilà. Et puis la Méditerranée, c'est plus petit que la mer de Chine.
Voilà, c'était pas le même.
Et même le truc socio-géographique et socio-politique est complètement différent.
Contexte différent.
Voilà. Alors l'histoire suivant son cours, il faudra bien que le pavillon anglais flotte tout au long des côtes des îles de Malaisie. Car, comme chacun le sait, la piraterie avait aussi gagné l'archipel malais.
Et oui.
C'est-à-dire bien au sud du Vietnam actuel. Et les pires pirates ne sont pas ceux que l'on croit, évidemment. Mais patience, on va vous présenter une émission sur la piraterie malaise et une autre sur la guerre de l'opium. Et ça, vous allez voir, ça va vous apprendre pas mal de choses. D'ailleurs, que vous a raconté Arnaud là au sujet des deux mondes, mais vous allez le retrouver en partie là-dedans avec ce pragmatisme des Anglais, ce pragmatisme commercial des Anglais. Voilà, on espère qu'on vous a intéressé, qu'on vous a captivé, qu'on vous a retenu et à bientôt. Ben voilà, pour l'opium, la guerre des Malais, la piraterie malaise et bien d'autres.
Et pour d'autres sujets, bien sûr, dans une prochaine émission.
Voilà.
Merci pour votre écoute et à une prochaine fois.
Bonne journée à tous. Bye bye.
Bye bye.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, oh, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.